Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
Cet épisode est commandité par Icon, fier partenaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie. Icon est une entreprise canadienne dans le domaine de la construction et de l'aménagement d'infrastructures. En plus de compter à son actif des projets phares comme la Tour du CN et l'Aéroport international de Montréal, construites dans les années 60, Icon réalise présentement le projet du réseau express métropolitain, soit le REM. Icon développe également des projets à l'international, dont l'aéroport des Bermudes ou le barrage hydroélectrique Natwajakri en Inde. Depuis 2017, Icon démontre un engagement envers les enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion, notamment en collaborant avec les communautés autochtones au Canada et l'avancement des femmes au sein d'Icon. Merci à Icon pour son précieux soutien. Bienvenue dans la deuxième saison de Communiquer au féminin, un balado par la chaire pour les femmes en sciences et en génie et animé par Léa Museau et Joëlle Pelletier-Nollet.
Au travers des épisodes, on vous amène à découvrir des parcours, des projets, des succès en sciences et en génie qui vous sont communiqués au féminin. Nous recevons aujourd'hui trois invités travaillant chez Icon, dont deux femmes en génie civil, Tiara Johnson et Jenna Thompson, qui nous parleront de leur expérience et de leurs implications au sein de l'entreprise. Détentrice d'un baccalauréat en génie civil, Tia est gestionnaire de la planification chez Icon. Elle dirige une équipe et s'occupe de projets d'envergure à l'international, mais aussi au pays. Jenna détient également un baccalauréat en génie civil. Elle occupe un poste de planificatrice de projets au bureau de Montréal, où elle est chargée, entre autres, de l'estimation et la planification du projet de la station du REM à l'aéroport Montréal-Trudeau. Nous recevons également Dominique Petit, partenaire d'affaires principale en ressources humaines chez Icon. Elle nous parlera des programmes liés à l'équité, la diversité et l'inclusion développés chez Icon. Dominique, Icon s'engage depuis 2017 envers les enjeux des DDI, notamment en collaborant avec les peuples autochtones et en favorisant l'avancement des femmes. D'ailleurs, Icon a lancé 9 formations destinées aux employés au cours des 6 dernières années, dont certaines sont obligatoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces formations?
Oui, alors on a des formations chez Icon qui englobent vraiment tout le volet là, diversité inclusion. On a une première formation qui a le titre d'ailleurs diversité inclusion 101. C'est une formation qui porte là, sur les principes fondamentaux de la diversité et de l'inclusion. On a également la formation qui s'appelle sensibilisation aux autochtones. Donc, comme on a beaucoup d'opportunités là, à faire des projets dans les territoires où il y a beaucoup de communautés autochtones, c'est important pour nous d'apprendre à mieux les connaître pour avoir une meilleure collaboration avec eux, tant sur le plan humain que sur le plan des affaires. On a également une formation sur les biais inconscients. Donc, dans cette formation-là, Icon donne des outils aux employés pour les aider à identifier les biais inconscients, à les reconnaître, puis à reconnaître les impacts aussi qu'ils peuvent avoir sur l'environnement de travail et sur les individus aussi en particulier. Ensuite, on a une formation qui s'appelle l'antiracisme envers les Noirs dans la construction. C'est une formation qui a comme objectif d'apprendre à identifier et de signaler les incidents de racisme envers les Noirs sur nos chantiers. On a une autre formation, celle-là qui est assez intéressante, s'appelle la diversité de pensée. Donc, c'est une formation qui sensibilise nos gens au bienfait d'avoir des points de vue différents. Donc, au fait que ça ouvre les esprits, que ça améliore les processus de prise de décision, ça améliore aussi la gestion des risques, les performances même globales de l'entreprise, là, d'avoir toutes sortes de diversités de pensées. On a aussi une formation sur le genre dans le milieu de travail. On a également une formation sur le leadership inclusif. On a également une séance animée par un aîné et un employé autochtone chez Icon. C'est une formation, ou plutôt une séance là, de discussion qui porte sur la culture et sur la sensibilisation autochtone. Ensuite, la toute dernière, c'est la formation sur les personnes à mobilité réduite. Donc, tout ça, c'est notre cursus en termes de formation.
C'est super varié, c'est vraiment intéressant, honnêtement. J'aurais aimé ça être chez Icon pour pouvoir y participer. Pouvez-vous justement nous parler aussi de l'importance pour AECON de soutenir l'EDI au travers de partenariats avec des organisations comme la Chaire pour les femmes en sciences et en génie ou NG Queers, par exemple?
Bien, la mission de la Chaire en particulier est tout à fait en ligne avec l'objectif de nos programmes en diversité et inclusion, qui est principalement d'augmenter la représentativité des femmes en construction. Avoir des partenariats avec d'autres organismes externes, ça nous permet aussi d'entendre un peu ce qui se passe puis ce qui se fait ailleurs, de mieux comprendre ce qui est important pour les gens dans les différents milieux. Puis ça nous permet aussi de nous adapter à la réalité de la société. Parce qu'on le sait, la diversité, l'inclusion, ça évolue au rythme de la société puis c'est toujours en mouvement. Donc, d'être près de ces organisations-là, ça nous aide à rester un peu à l'affût, là. Donc, ça nous pousse aussi à développer de nouvelles initiatives, je dirais, des nouvelles stratégies aussi qu'on pourrait développer dans notre milieu. Puis, un des avantages aussi, c'est que ça nous garde à jour dans ce qui se fait ailleurs, puis ça ne peut que nous ouvrir l'esprit, là, en quelque sorte. Pour ce qui est de NG Queer, je vais passer la parole à Jenna, je pense, parce que c'est plutôt elle là, qui va pouvoir vous raconter ce qu'elle a vécu. Là. C'est une expérience bien intéressante.
Oui, merci. NG Queer, c'est vraiment une super, super conférence. Puis l'année dernière, c'était en janvier, puis c'était à Toronto. Puis c'est de toutes les universités, de chaque coin de Canada qui viennent. Puis je pense que c'est 3 jours. Ils restent dans un hôtel, puis ils adressent certains sujets, pas simplement de la diversité, mais aussi d'ingénierie. Puis pour nous, on a fait des levées de fonds, puis on a été assez chanceuses d'assister aux conférences aussi. Puis on espère d'être impliqués encore cette année. Mais c'est important pour moi, puis pour le GRE LGBTQ. Parce que ça montre au monde puis aux jeunes qui vont rentrer dans le travail qu'on a comme un espace pour eux, spécifiquement pour ceux qui peut-être font partie des communautés marginalisées ou de la communauté gay aussi. Puis comme j'ai dit, on va peut-être être là aussi janvier 2024.
Puis AECON a également développé un comité diversité et inclusion, donc qui permet de sensibiliser au bien inconscient et d'améliorer l'environnement de travail. Il existe également un prix du leadership inclusif dans le cadre du programme des prix d'excellence d'AECON, qui sont destinés aux employés. Comment ces efforts permettent d'apporter des changements sur le long terme au sein de l'entreprise?
J'aime bien la perspective du long terme dans votre question, parce que justement, je pense que les efforts qui sont qui ont été faits déjà dans le passé, qui sont faits actuellement, s'opèrent de manière très, très lente. Ça s'opère vraiment très tranquillement et ça se fait presque un individu à la fois. Donc, on parle vraiment des effets à long terme là, qui sont très intéressants. Nos efforts à sensibiliser nos employés à l'inclusion et à la diversité, je crois que ça développe chez eux le sentiment d'être entendu et compris. Ça leur permet d'être eux-mêmes, puis de devenir à ce moment-là beaucoup plus engagés dans ce qu'ils font au travail. Je crois que ça va entraîner, dans le long terme, davantage de femmes à développer leur volonté et leur capacité de leader, en fait. Prendre vraiment leur place dans l'entreprise. Elles vont se sentir davantage en confiance de le faire avec un environnement qui est inclusif. C'est une place donc qu'on va devoir leur laisser, qu'on leur laisse déjà, mais qu'on va devoir d'autant plus leur laisser. Puis bon, mais on le voit d'ailleurs, là, pour les métiers de la construction, il y a 10-12 ans, il y avait environ 1% de femmes qui occupaient les postes en chantier. Maintenant, on parle plutôt de 3%. Donc, ça se fait tranquillement, mais ça se fait. Il y a un autre effet à long terme, je pense, qui pourra être fait, c'est au niveau du processus de recrutement. Quand on a plusieurs candidatures qui ont, par exemple, les mêmes compétences et les mêmes expériences, j'espère qu'on va être capable, là, quand la pénurie de main-d'œuvre va être un peu passée, j'espère qu'on va être capable de sélectionner les personnes pour qu'ils complètent le mieux possible l'équipe de travail en poste. donc selon le profil qu'ils ont, selon le parcours qu'ils ont, pour vraiment favoriser la diversité dans les équipes, à l'image là, finalement de la population. Là. Donc ça, c'est un travail de longue haleine pour justement faire accepter par l'équipe, par les membres de l'équipe, une personne peut-être qui ne leur ressemble pas nécessairement, mais qui peut apporter vraiment des atouts importants, justement, par sa différence. Puis ça, bien, ça se fait à travers les efforts qu'on y met, puis ça se fait aussi à travers le temps.
C'est bien vrai. C'est un grand défi, en tout cas, que beaucoup, beaucoup d'entreprises vivent en ce moment. Puis je suis contente de voir qu'il y a des entreprises qui mettent des efforts, mettent des choses en place pour que ça fonctionne. Justement, parlant de femmes, de leur avancement, donc il existe un programme Femmes en construction, EWIT, et le réseau des femmes chez AECON, donc EWIN. Pouvez-vous nous parler de la création et du rôle de ce programme?
Mm-hmm. Donc, pour faire la distinction entre les deux programmes, on a le programme EWIT qui est en fait Econ Women in Trades. Donc, c'est un programme des femmes de métier en construction. Ce programme-là a été lancé en 2019. Puis, c'est un programme qui permet aux femmes de réaliser des stages pour dans des postes comme ceux de manœuvre ou d'opératrice de machine hydraulique lourde, là, par exemple. C'est un programme qui offre de la formation, qui est entièrement rémunéré. C'est de la formation continue, donc à travers leur expérience chez nous, là, ils ont l'opportunité de pouvoir se spécialiser à travers les années. Il y a également du mentorat et du réseautage là, qui est offert à travers le programme. Ça, c'est pour le programme EWIT. Et il y a le programme EWIN, ça c'est Econ Women Inclusion Network. Donc, c'est une communauté des femmes d'Econ qui se trouve avec des femmes, je dirais entre guillemets, professionnelles, qui se concentrent sur le développement de carrière de nos femmes et aussi sur la promotion des femmes là, dans l'industrie. Donc, on a développé toute une plateforme sur l'intranet d'Econ qui est consacrée à cette communauté-là. On peut y partager des opportunités de formation, des ouvrages, de lecture, des vidéos sur les femmes dans le milieu de travail. On a également des témoignages sur, par exemple, les obstacles qu'elles rencontrent là, dans le milieu de travail. Puis ce qui est intéressant dans cette communauté-là, c'est qu'on a aussi l'opportunité, on a aussi donné une opportunité aux employés masculins de pouvoir participer. Donc, ça leur permet de rester informés un petit peu sur ce qui se fait, sur les problèmes ou les enjeux auxquels leurs collègues féminines sont confrontées. Puis, ils peuvent aussi discuter, s'impliquer dans les différentes initiatives là, selon leurs intérêts. Donc, ça, c'est les deux programmes EWIT et EWIN.
Là, c'est intéressant d'intégrer la gente masculine, si on veut, parce qu'ils font partie de la solution, hein, justement. Mm-hmm. C'est des personnes alliées, donc c'est super important de les inclure, nous autres aussi, dans nos groupes. C'est important aussi d'avoir un safe space pour les femmes et différents groupes, c'est certain, mais pour certains groupes, certains programmes, c'est aussi important de les inclure. Donc, c'est le fun de voir ça. Est-ce que, je sais qu'il y a beaucoup d'autres efforts réalisés là, dans les 6 dernières années en matière d'EDI chez Econ, mais est-ce qu'il y a d'autres avancées que vous aimeriez mettre de l'avant?
Oui, en fait, ce qu'on tente de faire actuellement, c'est de revoir notre politique familiale, comme on appelle, donc politique de congé, par exemple, de maternité, de paternité et parentale. Ce qu'on essaie de faire ici, c'est de ne plus faire de distinction entre les congés, justement, de la maman ou du papa. On parle vraiment uniquement, ou en fait, on souhaite aller vers un congé uniquement parental, donc sans distinction pour permettre justement que ce soit, soit au père, à la mère ou au couple de même sexe de pouvoir prendre le congé selon leurs besoins. Ensuite, il y a la politique d'inclusion des personnes trans, je pense, Jenna.
On avait l'idée, donc en 2021, on a fait un benchmark avec un consultant externe qui a rentré puis a regardé toutes nos politiques internes puis a dit des commentaires puis a nous donné un score de comment ça fit avec l'inclusion, particulièrement avec la communauté LGBTQ. Puis, une des choses qui était soulignée, c'était qu'on n'avait pas de politique spécifiquement pour la protection des employés trans. Donc, depuis ce point-là, on a commencé les travaux d'assurer qu'on a des protections en place. Puis ça, les travaux commencent avec la révision de toutes les politiques qui existent déjà pour assurer que le langage, puis toutes les choses qui sont incluses dans ces politiques vont être arrimées ou vont être comme, donc dans le même lignée de pensée qu'un politique trans. Donc ça, c'est vraiment la dernière étape. Une fois qu'on est fini avec toute la révision des politiques qui existent, on va faire un spécifiquement pour la protection des employés trans. On a un petit équipe RH qui nous aide parce que d'être sur un GRE, c'est complètement bénévolant. Donc, on n'a pas assez de gens puis assez de temps de le faire tout nous-mêmes. Donc, on a RH qui nous aide aussi. C'est très important pour nous. Autre que ça, on est aussi en train de réviser notre politique de congé de deuil. Donc, dans les politiques de deuil, souvent, ils parlent des relations ou des liens du sang familial. Puis dans la communauté gay, puis dans les autres communautés marginalisées, souvent, les liens du sang, c'est pas quelque chose qui est comme principal, leur relation principale en termes de famille. Donc, dans notre politique de deuil, ça spécifie encore maintenant mère, père, frère, etc. Donc, notre but, c'est qu'on va éliminer les définitions de famille en espérant que les communautés marginalisées sont plus représentées. La famille choisie est extrêmement importante pour la communauté gay, comme j'ai dit. Puis c'est ça le but.
Tiens, Jenna, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours et ce qui vous a amené à travailler chez ICON?
Mon parcours est plutôt international. Moi, j'ai fait ma scolarité puis mon premier diplôme universitaire en France avant de finaliser avec un baccalauréat en génie en Allemagne, le tout en génie civil. C'est sûr, mes expériences de travail ayant fait mon bac en Allemagne se sont faites via l'Allemagne en développement, puis ça a été suivi par des projets internationaux, que ce soit en Inde, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, pour finalement atterrir au Canada et au Québec. Donc, je suis arrivé au Québec en fin 2003 comme expatrié pour construire une centrale hydroélectrique à la Baie James, la centrale de East Main, qui était toute une aventure. C'était incroyable. Et donc, je travaillais au sein d'un JV, donc d'un joint venture entre Aecon et Hortif, qui était l'entreprise allemande pour laquelle je travaillais. Puis, ben, comme tout expatrié, on finit par aimer où c'est qu'on a atterri, puis on finit par y construire sa vie. Donc, j'ai fini par rester, je travaille officiellement pour Aecon depuis 2009. Ça a été, le transfert s'est fait de façon très, j'allais dire, douce, dans le sens où j'ai pas changé de boss, j'ai pas changé de bureau, j'ai pas changé d'ordinateur, j'ai juste changé de slip de pays.
Très progressif. Et Jenna?
J'ai gradué de l'Université de Concordia à Montréal en 2018. C'était un peu drôle comment j'ai reçu l'offre par Aecon. J'ai fait comme, il y a une cérémonie pour les ingénieurs, comme vous savez, avec la bague. Puis souvent, ça arrive quelques mois avant la cérémonie de graduation. Puis j'ai pris des photos pendant la cérémonie de bague. Puis j'ai fait un post sur mon Instagram. Ça disait quelque chose de « embauche-moi, s'il te plaît », comme un blague un peu. Puis mon amie que j'ai joué avec dans un de mes équipes de rugby, elle m'a envoyé un message privé, puis elle a dit « Est-ce que t'es sérieuse? » Parce que mon emploi est à la recherche des gens maintenant. Puis c'est un peu ça comment j'ai réussi de joindre Aecon. J'ai commencé direct, une semaine après ma dernière finale. J'ai écrit mon final, puis j'ai mis toutes mes affaires dans mon char, puis j'ai complètement déménagé à Toronto. Ouais, j'ai commencé à Toronto pendant un an, puis après j'ai revenu à Montréal pour être plus proche à ma famille, puis tout ça. Donc, c'est un peu ça. En total, je pense avec Aecon, je suis là depuis 4 ans et demi à peu près.
Puis justement, dans votre parcours, est-ce que vous avez déjà vécu des obstacles? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous y avez fait face?
Donc, c'est sûr que moi, mon premier obstacle, je l'ai eu au début des années 2000. J'étais censé aller sur un projet en Afrique du Sud. Parce que oui, j'ai travaillé pour un employeur en Allemagne, mais mon bureau est en Allemagne, mais j'ai jamais travaillé sur un projet, ou presque, qui était en Allemagne. Ça a toujours été des projets internationaux. Et donc, je devais partir sur un projet en Afrique du Sud. C'est un projet de port. Puis le gérant de projet était d'accord, parce que tant qu'il voyait mon nom, c'était pas un problème. Tiara Johnson, ça sonne bien. Fantastique. Mais quand il a su que j'étais une femme, ça n'a pas passé. Il avait à peu près comme mi-soixantaine, puis était pas mal misogyne, donc il a refusé d'avoir une femme sur le chantier. Et donc, je n'ai pas pu partir, mais j'ai quand même travaillé sur le projet parce qu'on s'est débrouillé pour qu'il ne sache pas que j'étais sur le projet. Donc, j'ai travaillé à distance, qui pour les années 2000 était quand même différent, parce que ça fonctionnait encore avec des fax. Il y avait quand même des courriels, mais majoritairement, c'était des fax. Donc, ça a été mon premier défi. J'avais trouvé ça bien plate à l'époque. Mais finalement, 3 ans plus tard, 2003, je suis parti au Canada sur un projet avec un gérant de projet qui était québécois, qui d'ailleurs m'a dit « on va te montrer c'est quoi la vie au Canada ». J'ai beaucoup aimé ça, le côté ouvert du Québec. Donc, j'ai eu mes défis quand je suis arrivée ici, pareil, parce qu'être une femme sur un chantier éloigné, c'est pas évident, surtout dans un camp fermé. Mais ces défis ont été surmontés. Il faut juste savoir où est sa position. Puis, les gens dans la construction sont quand même très protecteurs.
Qu'est-ce que tu veux dire par « ces défis ont été surmontés » Est-ce qu'il a fallu que tu fasses preuve de certaines qualités, d'une force d'esprit, de caractère?
Ingéniosité. Je parlerai plus d'ingéniosité. Par exemple, dans le premier camp où j'étais donc à la centrale d'Ismaine, il y avait un bar. Donc, quand tu sortais le samedi soir puis tu allais au bar, mais quand tu étais une femme puis tu passais la porte du bar, tu n'avais pas fait deux pas que tu avais déjà 3 bières dans les mains. Parce que la majorité des gens sont des gars, puis c'est intéressant de voir une femme. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inventé un petit ami, parce que j'avais un ami gay qui lui aussi voulait être tranquille, fait qu'on a fait comme si on était en couple, pour ainsi dire, pendant un an. D'ailleurs, quand j'ai annoncé à la fin de l'année que j'allais me marier, tout le monde pensait que j'allais me marier avec lui, mais non, il était juste mon témoin. Et ça, c'était la petite anecdote de l'abbé James. Donc c'est ça. Mais sinon, dans l'ensemble, au bout d'un moment, c'est l'avantage, du moins sur les chantiers construits, moi, ce que j'ai remarqué, mais comme je dis, c'est mon expérience personnelle, c'est qu'au bout d'un moment, la compétence fait place au genre. Mm-hmm. Puis bon, c'est vrai que j'ai peut-être une approche un peu plus diplomatique. Puis bon, c'est sûr que je venais d'Allemagne et d'un autre côté, je suis racisée. Donc, les autochtones pensaient que j'étais autochtone. Mon nom, c'est Rajonsson. Il y en a qui pensaient que j'étais suédoise parce qu'ils m'entendaient juste à la radio. Et que la dichotomie entre l'image puis la personne était souvent marquante. Fait que finalement, au bout d'un moment, ils m'ont tous dit « bon, ben ça, c'est juste Tia ». Et qu'on finit pour trouver sa place.
Ben, c'est ça. T'as aussi montré la vraie Tia derrière tout, oui, ça.
Oui, absolument.
C'est génial. Jenna, qu'est-ce qu'il y en est pour toi?
Oui, pour moi, comme j'ai travaillé juste pendant 5 ans total, probablement, j'ai pas vraiment vécu des obstacles énormes. Mais quand même, comme président ancien président de GRE Fierté Aikon, j'ai quand même eu beaucoup d'histoires des gens qui sont sur chantier, en construction. Donc, mais ça, c'est plutôt quelque chose de privé. Donc, je sais qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles qui existent. Je pense que je suis chanceuse d'être un des femmes qui n'étaient pas victimisées. Mais au moins pas des obstacles comme... Peut-être qu'il y a des obstacles privés ou cachés. Tu sais, des unconscious bias, je sais pas si...
Des fois, on s'en rend pas compte, oui.
Ouais. Donc, c'est toujours ça. C'est toujours dans le background. On a toujours des batailles, oui. On a toujours des batailles comme femme dans un... Dans une industrie des hommes, I guess, historiquement.
Tia, depuis le début de votre carrière à aujourd'hui, est-ce que vous avez observé une évolution dans le domaine du génie pour les femmes?
Oui, définitivement. Bon, c'est sûr que ma première gradation date de 1989 en France. Oups, c'était le siècle dernier. Donc oui, il y a eu énormément. Dans ma première gradation, il n'y avait pas tant de filles que ça. Je dis, on était peut-être 30%. Quand je suis arrivé en Allemagne, on apparentait plus le 50% au niveau universitaire dans ce qui était de la promotion universitaire. Quand on rentre par contre dans les entreprises, là, on se rend compte que selon le domaine, il y a des domaines où il va y avoir plus de femmes qui vont aller, puis il y a des domaines où elles vont être moins présentes. Moi, c'est sûr que je suis parti plus dans le technique, et donc on était moins de femmes à ce moment-là. Mais dans l'ensemble, je dirais que oui. Quand je regarde maintenant un peu dans mon entourage même, moi j'ai une équipe qui est composée majoritairement de femmes. Puis c'est pas une question de discrimination au niveau de l'embauche, c'est vraiment juste que ça a donné de même. On donne les mêmes chances à tout le monde chez Aikon, puis les chances se sont retrouvées comme ça. Mais j'en suis quand même très fier de savoir qu'on a eu beaucoup de candidatures féminines pour les postes qu'on a affichés. Donc oui, définitivement, c'est sûr qu'il y a un changement qui s'est fait. C'est un changement que je trouve peut-être un peu lent, mais progressif.
Puis Jenna, vous êtes présidente de Fierté Aikon, donc ça fait plusieurs fois que vous en parlez là, durant notre conversation. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer c'est quoi le rôle de cette communauté-là?
Oui, donc depuis 2021, j'étais présidente de Fierté Aikon. Récemment, j'ai donné le bâton à quelqu'un d'autre parce que, comme j'ai dit, c'est beaucoup d'heures, beaucoup d'ouvrages, puis c'est toujours, on doit traiter beaucoup de plaintes puis de concerns des employés. Donc, c'est un peu ça. Le GRE, ça sert comme une plateforme pour n'importe qui peut rentrer pour discuter des idées qu'il veut faire dans la compagnie ou s'il y a des politiques qu'il veut faire changer, si ça a l'air que c'est pas assez inclusif pour eux. On essaie toujours d'assurer que Aecon peut être un lieu un peu plus simple et un peu plus sûr. C'est ça le rôle. Donc, on fait beaucoup de choses. On fait comme on a des consultants externes toujours qui viennent et qui parlent pendant l'heure de dîner. Puis, on envoie toujours des infolettres à la compagnie complète. Puis, c'est beaucoup d'ouvrages quand même. La GRE Ferté Aecon, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement. Ça inclut pas des membres qui sont pas dans la communauté, parce que c'est aussi quelque chose un peu plus protégé que des autres, peut-être. Donc, on a un peu pas de la misère, mais c'est plus difficile d'avoir beaucoup de membres de mon GRE à cause de ça. Donc, il y a encore, ils ont peur de parler puis de nous joindre. Donc, ça, c'est aussi un défi qu'on a aujourd'hui.
OK. Donc, en fait, Fierté Aecon est très actif. Tout le monde connaît tout le monde reçoit son infolettre, tout le monde reçoit ses activités. Mais, comme tu dis, il y a peu de personnes qui intègrent le groupe par peur de peut-être être catégorisées. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu plus c'est quoi cette peur-là que tu disais?
Oui, c'est sur le chantier, c'est un environnement complètement différent. Donc, quand tu es au bureau, au centre-ville, versus dans des chantiers loin des villes majeures, il y a une attitude différente. Très différent. Donc, la plupart des gens qui font partie du GRE sont des gens du bureau qui sont un peu plus sécures d'être là parce qu'ils savent qu'ils sont protégés. Mais les gens de chantier sont très loin dans un sens physique. Mais aussi, il y a une séparation souvent parce qu'on est dans plusieurs consortiums. Donc, ça veut dire que c'est pas seulement nous qui sommes dans le projet, c'est aussi comme d'autres compagnies qui font partie aussi. Donc, les gens qui travaillent pour nous dans des consortiums, c'est souvent le cas où ils ne sont pas nécessairement à l'aise à parler avec le RH de l'autre compagnie ou n'importe quelle raison. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui affectent les travailleurs de consortiums en comparaison avec les gens d'Aecon qui sont vraiment au bureau. Puis, on avait eu plusieurs problèmes avec des consortiums où il y avait comme des drapeaux à fierté qui étaient tassés dans la poubelle, ce type de microaggression. Donc, c'est toujours difficile d'avoir quelqu'un, d'être partie de la GRE dans une façon très publique. On a souvent des gens qui nous envoient des messages, mais ils veulent rester plutôt privés. Donc, c'est souvent que le GRE, ça a l'air qu'il y a juste 10 ou 12 personnes qui sont impliquées, mais en réalité, il y a 30. Puis, il y a juste, tu sais, les 12 sont officiellement impliqués, puis les autres sont dans le paramètre un peu.
C'est pour ça qu'en fait, c'est une grosse charge sur vos épaules, dans le fond, les personnes qui sont GRE, là, finalement. Vous êtes peu, puis en même temps, ben c'est ça, vous travaillez pour beaucoup plus, en fait, de personnes qui est publiquement dans ce groupe-là. Je comprends.
J'aimerais juste rajouter quelque chose. On a, je pense que c'est important de mentionner que nos 5 GRE sont dirigés ou supportés par des cadres, donc par des personnes de la haute direction chez Aecon. Donc, chaque GRE est encadré là, par une personne de la haute direction. Peut-être que les gens ne savent pas nécessairement ce que GRE veut dire aussi. Là, on prononce cet acronyme-là depuis le début, mais je pense que c'est important de mentionner qu'on parle de groupe ressources des employés. Oui. Donc, c'est vraiment, c'est dirigé principalement par des employés de l'entreprise. Puis en termes de GRE, là, en termes de groupe comme tel, on a le GRE pour personnes ayant des déficiences, donc concernant des handicaps. Les GRE autochtones, les GRE diverses origines, donc pour les employés racialisés ou appartenant à des minorités visibles. On a le GRE fierté pour les employés qui s'identifient comme les lesbiennes, gays, bisexuels, trans, etc. Et le GRE réseau d'inclusion des femmes chez Aecon.
Merci Dominique pour cette belle précision. Tia.
Oui, je voulais aussi parler de mon expérience ayant fait des consortiums, différents consortiums avec la participation de Econ, puis étant chez Econ depuis 2009. Moi, j'ai vu aussi un progrès. Je peux confirmer les dires de Gina dans le sens où quand on a des consortiums, c'est beaucoup plus difficile parce que là, on se retrouve avec des partenaires qui n'ont pas les mêmes façons de voir, qui n'ont pas les mêmes politiques internes. Et je peux absolument témoigner que dans ce sens-là, Econ se démarque fortement. Dans ce genre de consortium-là, Econ se démarque toujours. Puis on le ressent quand on parle avec les autres employés des autres entreprises qui disent, oh, vous, chez Econ, vous avez l'air d'être vraiment bien suivi. Ça a l'air d'être une grosse famille. On a vraiment une bonne réputation, puis un bon environnement. Puis ça, je tenais à le souligner parce que moi, l'ayant vécu depuis 2009, on est rendu en 2023, ça fait quand même un bon bout. Je le vis à tous les jours, là. Puis c'est vraiment important.
Certainement. Mais ça fait du bien de voir que vous êtes bien entouré quand même, malgré toutes les difficultés ou les défis que vous pouvez rencontrer. Tia, aujourd'hui, vous avez un poste de gestion de projet plutôt qu'un poste plus technique, comme en début de carrière. C'est quelque chose que vous avez mentionné tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené à faire ce choix au cours de votre carrière?
En fait, moi, j'aime à dire que ce choix a été plutôt tardif. Il s'est fait par cascade. Fait que ça n'a pas été délibéré. Je n'ai pas dit au début de ma carrière, moi, je veux être gestionnaire, c'est ça que je veux faire dans la vie. Souvent, on l'entend maintenant dans les étudiants quand on va dans les fameuses foires au job. Mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Je veux être gérant de projet. Je veux faire de la gestion de projet. Fait que moi, je n'étais pas dans cette vanne-là. Moi, je dis, moi, je veux avoir du fun. Puis, à ma sortie de l'université, j'ai débuté en qualité. Donc, très administratif, très cadré, puisque j'aimais ça. Étant très cartésienne, j'ai beaucoup aimé ça. Puis finalement, j'ai viré dans les services techniques, donc estimation, planification, méthodologie, procédure de travail. Pourquoi? Parce que pour moi, la technique, ça s'apparente à jouer dans un bac à sable. Donc, je passais mes journées à jouer dans un bac à sable. Puis j'avais bien du fun. Donc, mon développement, en fait, de carrière a ricoché de projet en projet à travers le monde, donc de bac à sable en bac à sable. Mais à chaque bac à sable, on finit par avoir des opportunités qui permettent d'avancer, surtout de comprendre qu'avec le temps, on gagne en responsabilité. Puis ce que je veux dire en responsabilité, c'est responsabilité en tant que d'expérience d'abord, puis de gestionnaire ensuite, de donner au suivant. Et donc de supporter le développement des générations qui suivent, en leur montrant qu'il y a des possibilités, en partageant notre savoir au jour le jour, en reconnaissant leur potentiel, et surtout en leur permettant d'explorer ce potentiel, et surtout de devenir ce qu'elles veulent être. Puis là, je regarde Gina, qui est avec nous dans ce podcast. Donc, quelque part, au fond de moi, il y a cette volonté de les amener à se dépasser, surtout à ce qu'elles me dépassent. Parce que moi, j'ai eu un certain développement. On parle de 1989, université. Fin des années 90, on commence à travailler dans un domaine qui peut être un peu plus fermé. Ça se développe avec les années 2000. Vient au Québec, l'ouverture canadienne est bien différente de l'Europe, bien différente. Au Québec, encore plus différente que le reste du Canada. En tout cas, moi, j'ai vu une différence entre l'Ontario et le Québec quand je suis arrivé en 2004. Cette différence est en train de s'équilibrer, surtout au sein d'Econ, parce que là, on parle d'une grande famille au Canada. Mais ça reste quand même que. C'est un développement que j'ai vu avancer beaucoup. Ça parle pour mon âge. Donc, quelque part, au moins de moi, j'ai vraiment cette volonté qu'elle se dépasse, puis surtout qu'elle me dépasse. En quelque sorte, un peu comme la devise olympique, là. Situs, altius, fortius, communitaire. Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. C'est pas mal ça.
Wow! C'est un beau message que tu envoies aux gens. En tout cas, Tia, bravo. Je suis sûre que tu es un bel exemple pour bien d'ingénieurs ou des techniciennes ou peu importe qui sont d'une autre génération, là, un peu plus jeune. Donc, félicitations.
Puis les différentes pratiques qui sont mises en place par Icon, donc depuis 2017 en matière d'EDI, est-ce qu'elles ont permis d'alimenter votre réflexion personnelle sur le sujet justement et pourquoi?
Être président de la groupe Fierté Icône a sûrement m'enseigné de beaucoup. Quelque chose que je peux dire 100%, c'est qu'au départ, une fois que j'ai sorti de l'université, je ne savais pas l'ampleur de la intersectionnalité entre les GRE. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie toujours, c'est un focus pour nous, de souligner l'intersectionnalité. Donc, avec Fierté Aicon, puis avec AWIN, parce que je fais partie des deux, on essaie toujours d'avoir un type d'événement par mois. Puis, dans notre avis, un événement Fierté Aicon, par exemple, ça se peut qu'on soutient l'autre GRE autochtone, par exemple, puis on fait quelque chose ensemble. Donc, ça, c'est quelque chose qui est toujours, toujours dans nos têtes. On essaye vraiment de souligner puis de mettre dans le forefront, t'sais, clairement aux employés que juste parce qu'il y a quelqu'un qui fait partie d'un groupe, c'est pas nécessairement juste ce groupe qui appartient. Il y a beaucoup de overlap entre les groupes. Puis, I guess, ça, c'est ça, et quelqu'un m'a enseigné.
C'est super intéressant ce que tu viens de mentionner là, Jenna, l'intersectionnalité entre les groupes. C'est effectivement quelque chose auquel on ne pense pas souvent. Pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est l'intersectionnalité, c'est quand une personne va vivre plusieurs défis en même temps. Donc, on peut parler, par exemple, d'être une femme racisée. Donc, ça, c'est une intersection. Puis là, Jenna a parlé du groupe autochtone et du groupe LGBT. Donc, parfois, de faire des événements ensemble, ça permet de voir toute la variété de gens qui existent, donc qui ne s'identifient pas seulement à un groupe, mais à plusieurs également. Donc, c'est super intéressant. Tia, ouais, c'est quoi qui a alimenté ta réflexion, puis ton arrivée chez AIC?
Et moi, j'aime ça l'intersectionnalité, comme tu as parlé, parce que moi, je suis racisée, immigrée. Je fais partie de la communauté 2SLGBTQIA+. Donc, je couvre pratiquement toutes les intersections. Puis, j'avouerai que quand Jenna a rejoint l'équipe de planification. Donc, quand moi, je suis sortie du REM, puis que Jenna a rejoint l'équipe de planification, de savoir qu'elle était dans ces groupes-là, justement, ça a comme accéléré ma réflexion. Il y avait déjà, j'étais déjà AWIN, j'avais participé à la première conférence de AWIN, Back in the Year, où j'avais été invitée par Dominique à aller donner mon propre témoignage en tant que femme sur un projet, en joint venture, dans une position qui était intéressante. Qui n'était pas une position de gestionnaire, mais qui était intéressante pareil. Puis j'avais déjà vu l'évolution là, à ce moment-là. Là, on parle de 2013, je pense. J'avais déjà vu une évolution. Puis là, quand en 2022, là, quand j'ai rencontré Jenna, puis qu'elle a rejoint l'équipe de planification, donc elle est venue travailler dans mon équipe, ça a ouvert une autre perspective. Je savais qu'Econ travaillait fort là-dessus, on voyait sur Intranet, etc. Mais ça a vraiment accéléré ma propre réflexion personnelle quand j'ai regardé. Bon, ben là, c'est parce que là, moi, je suis partout. Là. Puis je me sentais concerné, puis je me sentais supporté. Mais ça a juste confirmé ce sentiment-là d'appartenance.
C'est génial. Dominique, toi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter de ce côté-là?
Je pourrais dire, moi, dans ma pratique RH, depuis le début, depuis que je fais ça, bon, évidemment, je n'ai pas toujours eu le même rôle, mais depuis que les gens viennent un peu par réflexe me voir pour différentes choses, je peux dire que de plus en plus, ce genre de dossier-là m'arrive. Et j'ai de plus en plus l'occasion de prendre le temps avec les gens sur ces questions-là. Et ça ne fait que faire grandir un peu ma perspective par rapport à ces enjeux-là. Donc, on en entend parler, on est sollicité ici et là, mais vraiment de prendre le temps de s'asseoir avec les gens, de discuter d'enjeux concrets dans mon milieu de travail avec mes employés. J'aime pas ça dire ça, mais c'est mes gens pour moi. Ça évolue. Ma vision de toutes ces problématiques-là évolue. Puis je pense que c'est vraiment en ayant l'occasion d'en parler, d'en discuter dans un environnement, pour reprendre le terme de Jenna, dans un environnement sécure, donc sans jugement, je pense que c'est là où on peut arriver vraiment à faire des grands pas.
Tout à fait, puis de voir que c'est des humains, dans le fond, qu'on connaît bien, qu'on côtoie tous les jours, que c'est pas juste des notions théoriques qu'on apprend dans des formations, mais qu'on peut vraiment côtoyer un ensemble de personnes, un ensemble de diversités, faire partie de cette diversité-là également. Quand on fait partie d'une communauté, on n'a pas le choix de s'ouvrir finalement à la diversité.
Puis pour finir, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une femme qui vous inspire particulièrement dans votre domaine?
Mais moi, c'est clair, Tia, c'est ma première choix pour ça. Oh. Elle est ma superviseure, donc c'est vraiment elle.
C'est beau.
Oui, je suis pas mal touchée par ça, puis je trouve que c'est important. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de l'entendre parce que ça veut dire que j'ai réussi quelque part, j'ai réussi à transmettre mon message quelque part. Puis je trouve en tant que gestionnaire, c'est important justement de se retourner, de partager, comme je l'ai dit plus tôt, surtout de les tirer vers le haut. Et d'ouvrir des portes que nous, à notre époque, à son âge, moi, j'avais des portes qui étaient fermées. Mais elles n'ont aucune raison d'être fermées à ce point-là. Puis ça passe par les gestionnaires, puis ça passe par les valeurs, puis ça passe par l'exemple, puis ça passe par je donne le suivant, puis je tire le suivant. Moi, c'est sûr que moi, mon inspiration, c'est quand je suis arrivé au Québec, c'est Sophie Brochu. Sophie Brochu, pour moi, là, c'est une personne qui est vraiment comme inspirante. Ce qu'elle a fait avec Gaz Métro en devenant énergie, j'avais beaucoup d'espoir avec Hydro-Québec, un petit peu déçu qu'elle ait quitté. Mais d'un autre côté, je trouve la façon dont elle a fait, puis l'importance qu'elle donne au respect de ses propres valeurs dans son chemin personnel et professionnel. Je trouve ça fascinant et très inspirant.
Puis on a eu l'occasion de la voir régulièrement dans des conférences et tout ça, puis elle est super inspirante, très, très avenante. C'est un beau modèle pour le Québec.
Moi, j'aimerais parler de Chris Bergeron, qui est pour moi une personne inspirante. J'ai côtoyé Chris chez Cossette à l'époque quand je travaillais pour l'entreprise. Chris qui n'avait pas encore fait sa transition, elle est maintenant une femme. C'est assez intéressant de voir comment tout ça a pu évoluer, surtout dans le monde de la publicité, du marketing. J'ai eu la chance de l'écouter dans une conférence justement où elle parle des défis auxquels elle a dû faire face. Et puis, ça a été toute une aventure. Elle fait maintenant, donc, en plus de son travail en publicité, elle fait maintenant la promotion de la diversité, de l'inclusion, de manière très, 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 très brillante et très, très accessible. Donc, je pense que c'est une personne qui pourrait en inspirer plusieurs.
Parfait, merci Dominique. Merci à vous trois de nous avoir parlé de votre parcours chez Icon. C'est des parcours assez divers. Puis on a appris beaucoup de choses sur ce que fait Icon en EDI. Moi, je trouvais ça très intéressant de voir en fait tout ce qui est possible de faire dans une entreprise pour les différents groupes qui existent.
Oui, c'est vrai. Vous êtes la première entreprise qu'on passe en entrevue, si on veut. Donc, c'est vraiment intéressant de voir tout ce qu'est-ce qui se passe. Ça nous permet de... tu sais, des fois, quand on travaille dans nos petits cocons, puis tout ça, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans d'autres organisations, donc sur le terrain. Donc, ça, c'était vraiment le fun de voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain du côté d'Icon. Donc, ça sera un plaisir de vous recevoir à nouveau, éventuellement.
Pour permettre... aux femmes, ou en tout cas à tout le monde qui nous écoute actuellement, de pouvoir avoir une réflexion dans le sens de venir travailler chez Econ, ou de vouloir venir travailler chez Econ, parce que pour nous, pour Econ, en fait, notre mentalité, c'est de véritablement de pouvoir offrir des opportunités aux femmes principalement pour les amener là où elles ont envie d'aller. Quand on est une femme dans le génie ou en construction, souvent, on est prise avec cette idée que c'est pas juste une idée, là, c'est une réalité, que c'est un milieu qui est encore très masculinisé, puis qui peut faire peur, et puis qui peut mettre les freins là, à certaines ambitions féminines, là, si je peux dire ça comme ça, avec nos initiatives, puis notre ouverture vers ce genre d'opportunités-là. Je pense que c'est une belle occasion pour les femmes de venir cogner à notre porte pour voir s'il n'y a pas une place pour elles là, chez nous.
Super, c'est un beau message inspirant. Merci, Dominique.
Merci à vous trois.
Ça fait plaisir.
J'avoue que je suis très curieuse de voir ce qui va sortir de tout ce podcast-là. C'était mon premier podcast. Wow. Ah oui.
Qu'est-ce que tu retiens de cette belle discussion avec Icon?
Ce que je retiens, c'est que chez Icon, le travail est vraiment fait sur le long terme. Donc, elles nous ont parlé du fait qu'ils font appel à des consultations externes pour voir quelles améliorations peuvent être faites au niveau des politiques internes. Ils nous ont parlé de leurs projets futurs, notamment au niveau du recrutement, pour les congés parentaux également, et aussi les politiques pour les personnes trans. Donc, je pense que c'est important. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est avec EWIT, il y a une formation continue pour les femmes qui, en plus, est rémunérée. Donc, vont avoir un accès au réseautage, au mentorat. Donc, tout ça, ça leur permet d'avoir de l'expérience en plus. Elles ont aussi parlé d'un intranet sur lequel sont partagées des informations sur les femmes. Donc, ça permet d'avoir une banque où tout le monde a accès à ces informations-là. Donc, ça empêche un certain travail en silo. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Et en plus, il y a des témoignages de personnes qui travaillent chez Icon. Donc je trouve que ça rend le projet plus humain et ça renforce la communauté. Puis toi, Joël, qu'est-ce que tu as retenu de cet échange?
J'ai vraiment apprécié passer une entrevue avec trois personnes. C'était la première fois qu'on avait autant de gens sur le podcast, donc c'était super animé. Les discussions étaient très intéressantes. Puis la première chose que j'ai retenue, tu parlais de politique pour les personnes trans tout à l'heure, donc c'est quelque chose que j'avais pas réalisé à quel point c'est long changer une politique ou créer une politique. Donc, pour la politique de protection des personnes trans, il faut revoir toutes les autres politiques pour voir si les personnes trans sont bien incluses. Souvent, il y en a beaucoup dans une grande entreprise, dans une grande organisation comme ça. Donc, c'est vraiment un travail de moine. Ça prend de la patience, ça prend des gens qui sont motivés, surtout que ça se fait souvent sur des heures de bénévoles. Donc, c'est vraiment bien pour ce genre de projet-là qu'il y a une équipe RH qui vient en aide au groupe d'employés de Fierté Icon. Donc, c'est une des choses que je n'avais pas réalisé à quel point ça peut être beaucoup de travail. Puis, quelque chose que j'ai retenu, c'est Dominique, quand elle parlait de l'importance pour Icon de soutenir les DI à travers des partenariats ou des organisations externes comme nous, comme la Chaire pour les femmes en sciences et en génie, hein, qu'on représente sur ce podcast-ci. Ben, en fait, c'est que les entreprises qui nous parrainent sont des entreprises plus en sciences, en génie, etc. Donc, on n'a pas les mêmes spécialités, les mêmes connaissances. Puis, c'est ça que ça prend pour pouvoir avancer, créer un environnement meilleur, ça prend un transfert de connaissances, un rayonnement de nos idées, de nos actions. Donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant de faire des partenariats pour compléter finalement nos connaissances et travailler ensemble, être plus forts ensemble. Donc sur ce, je remercie encore notre partenaire Icon pour la commandite de ce balado.
Donc, on vous remercie d'avoir écouté cet épisode avec Dominique, Tia et Jenna. On espère que ça vous a plu et on vous souhaite une bonne journée.
Bye!